La foi No 63, la foi confirmée. Le 4 février 2018. Brian Kozurek, pasteur. Ce matin, je voudrais parler une fois de plus de la foi et cette fois de la foi confirmée. Ou dirons-nous que la foi confirmée est la manifestation de la révélation. En d'autres termes, nous comprenons que la foi est une révélation, et que la confirmation de la foi est la manifestation de cette révélation. Ainsi, lorsque notre foi ou notre révélation est confirmée, c'est parce qu'elle nous est devenue visible dans la forme de la réalité. Comme frère Branham dit, Dieu confirme ou interprète toujours sa parole en la faisant s'accomplir. C'est donc cette confirmation de la foi que nous examinerons ce matin. Maintenant, nous avons examiné, tout au long de cette série sur la foi, les promesses de Dieu pour nous, et la promesse de cette heure réside dans l'esprit d'adoption. Mais l'esprit d'adoption est une chose invisible. Étant donné que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui n'est mis, peut être vu. Pourtant, nous savons que nous avons son esprit en nous. Parce qu'il a promis que son esprit rendrait témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 1.16 L'esprit, et il n'y a qu'un seul, l'esprit est l'esprit de Dieu, donc, l'esprit ou l'esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Remarquez ici que ce verset parle de Dieu nous confirmant sa promesse d'adoption. Ainsi, nous examinons cette confirmation, à notre endroit, qui vient d'une certaine manière, nous faisant connaître que la promesse est plus qu'une simple révélation mentale, mais que cette confirmation de la promesse vient au moyen d'une manifestation ou de la réalité de la révélation. En d'autres termes, ce qui est invisible devient visible pour nous. Nous savons que les promesses que Dieu nous fait sont une semence, car elles sont des semences de vie. Et par conséquent, dans 1 Jean 1, nous voyons comment étant des semences et étant vivantes, elles nous sont effectivement données dans une forme invisible, forme due à une promesse de Dieu. Mais il arrive quelque chose à cette promesse invisible que nous recevons par la foi sous forme de parole. Et quand nous la voyons vraiment en premier sous sa forme de parole invisible, alors Dieu fait quelque chose pour nous confirmer cette promesse. Et quand il la confirme, la vie qui est dans la promesse fait se matérialiser la promesse pour nous, confirmant ainsi que la promesse est aussi réelle que la réalité elle-même. À ce stade, la promesse invisible se revêtit de la vie de la promesse et nous voyons la vie se manifester. Nous voyons en fait Dieu nous confirmer sa promesse. L'apôtre Jean en parle dans 1 Jean 1.1 ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Remarquez le processus par lequel la promesse de la parole nous fait passer. D'abord, nous l'entendons, et la foi vient de ce qu'on entend. Et une fois entendue, elle est encore dans une forme invisible. Mais une fois que la foi s'empare de ce que nous avons entendu, alors la prochaine étape, pour nous est de reconnaître ce que nous avons entendu. Et une fois que cela se produit et que nous reconnaissons ce que nous avons entendu, quelque chose se passe en nous qui commence à faire passer cette promesse d'une chose invisible à une expérience de la vie réelle. Nous entrons alors dans ce que nous avons entendu la première fois et qui a maintenant commencé à devenir une réalité, et c'est là que nous agissons en conséquence. Ainsi, l'apôtre Jean dit, nous devons d'abord entendre la promesse. Puis il dit nous allons commencer à la voir, nous commencerons à la percevoir et en percevant ce que nous avons entendu à l'extérieur maintenant en train de sortir de la dimension de notre pensée et d'entrer dans les trois dimensions dans lesquelles nous vivons. Et c'est à ce moment-là que ce que nous voyons ou commençons à percevoir, que nos mains commencent à toucher et à saisir ce que nous avons d'abord entendu, puis de commencer à voir et à percevoir, elle devient visible pour nous dans cette dimension même où nous vivons. Et c'est Esther là que nous entrons dans cette promesse qui est Esther en train de devenir une réalité pour nous. Et ce que nous regardons ici, c'est Esther la création elle-même. Maintenant, pensez aux écureuils qui ont été créés. Premièrement, le prophète devait avoir la pensée placée dans son esprit. Le Saint-Esprit a parlé à notre prophète et a dit, « Que veux-tu? Que cherches-tu? » J'ai entendu, mais maintenant je vois Psalm 27 novembre 65 à 135, et je l'entendis de nouveau dire, « Tu es en train de chasser et tu as besoin de gibier. » Remarquez que c'est Esther Dieu qui a d'abord placé la pensée dans l'esprit de notre prophète d'avoir ses écureuils. Et c'est Esther exactement ce que nous avons appris dans cette série sur la foi. La Bible nous enseigne, car c'est Esther Dieu qui produit en vous à la fois de vouloir et de faire son bon plaisir. Alors Dieu dit à son prophète, « De combien as-tu besoin ?» 136 Je pensais, pour Néhémie pas exagérer, je vais seulement en demander trois écureuils. Je désire trois jeunes écureuils roux. Je désire cela. 137 Il dit, alors, dit-il. Maintenant, remarquez que Dieu Esther avec son prophète, pendant que le prophète Esther partit en excursion de chasse pour se détendre. Mais remarquez comment les choses évoluent ici. Ce que nous voyons arriver ici, c'est Esther que c'est Esther Dieu qui produit dans son prophète le vouloir et ensuite le faire. Parce que Dieu dit au prophète, qu'Esther c'est ce que tu veux? Quelle Esther ta volonté? Puis il dit ce qu'il veut. Et puis Dieu lui dit que tu dois dire ce que tu veux pour que le processus commence. Il dit, tu dois d'abord prononcer cela. Tu dois d'abord prononcer cela parce que c'est Esther ainsi que la foi fonctionne. La foi vient de qu'on entend. Et s'il Néhémie prononce pas cela, alors cela restera une pensée invisible. Mais une fois prononcé, la foi naît et commence le processus de création car la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, je vais vous relire ce qui s'Esther passait avec le prophète et voir si ce n'Esther pas exactement ce que nous voyons se dérouler ici. Et remarquez même le titre de son sermon. J'ai entendu, mais maintenant je vois Psalm 27 novembre 65 à 135, et je l'entendis de nouveau dire, tu es en train de chasser et tu as besoin de gibier. Dieu a d'abord placé la pensée dans l'esprit de notre prophète d'avoir ses écureuils. Alors Dieu dit à son prophète, de combien as-tu besoin? 136 Je pensais, pour Néhémie pas exagérer, je vais seulement en demander trois écureuils. Je désire trois jeunes écureuils roux. Je désire cela. 137 Il dit, alors, dit-il. Maintenant, à ce stade, frère Branham commence à entrer dans cette conversation avec Dieu et il commence à agir selon ce que Dieu lui a dit de faire. Et je dis, je vais attraper trois jeunes écureuils roux. Remarquez, je voudrais avoir, mais je dis, je vais attraper trois jeunes écureuils roux. Ce n'Esther pas, j'espère. C'est Esther, je sais. Et je dis, je vais attraper trois jeunes écureuils roux. Puis Dieu répond, il dit, de quel côté viendront-ils? 140 à bien. Pensais-je. Je suis allé si loin. Voici ici quelque chose qui me parle ici. Exactement comme vous m'entendez vous parler. Et Dieu dans le ciel, j'ai cette Bible sur mon cœur, c'est que c'est Esther vrai. Et je dis, eh bien, je choisis un endroit ridicule. C'était une vieille branche sèche qui pendait là-bas, à environ 50 mètres de l'endroit où se trouvait mon fusil. 141 Je dis, le premier sera là, et il y était. 142 Je me suis frotté les yeux et j'ai regardé en arrière et j'ai tourné la tête. Et je me suis dit, je n'ai mis veut pas tirer sur une vision. Ainsi, j'ai regardé de nouveau et l'écureuil était là. Je mis une cartouche dans mon fusil. Et je visais et je pus voir l'œil noir de ce jeune écureuil roux. Je pensais, peut-être que je suis en train de dormir et que je me réveillerai dans quelques minutes. Je suis en train de rêver de cela. Bien. Je pointai et tirai l'écureuil et il tomba de la branche. Je pensais, eh bien, je n'hémissais pas. Je pensais, eh bien, devrais-je aller là-bas le chercher? Et je m'y suis rendu et il se trouvait là. Je le ramassai et du sang sortait de lui. Une vision n'hémissaigne pas, vous savez. Ainsi, je le ramassai, c'était bien un écureuil. J'étais comme entièrement paralysé. Maintenant, gardez cette histoire à l'esprit pendant que nous revenons et relisons ce que l'apôtre Jean nous disait dans 1 Jean 1.1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Rappelez-vous, il devait d'abord l'entendre de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend, ce que nous avons vu de nos yeux. Et une fois qu'il l'a dit, alors la pensée, la vie, se matérialise et Jean dit ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Concernant la parole de vie, de car la vie a été manifestée. Maintenant, la vie est invisible jusqu'à ce qu'elle se manifeste et quand elle se manifeste, nous pouvons voir par ses caractéristiques de quelle forme de vie il s'agit. Et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, nous l'exprimons par la parole parlée à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, pour vous et moi, la promesse que nous examinons en cet orce n'est pas celle des écureuils. C'était juste pour nous montrer le principe de la création ou la puissance de la parole parlée, et comment l'utiliser. Mais notre promesse est la promesse de l'adoption. Notre promesse concerne le fait d'être des enfants de Dieu, et si enfants de Dieu, alors aussi héritiers de Dieu, et d'hériter des promesses de Dieu. L'apôtre Paul a dit dans Romains 1.17, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. 18. J'estime que les souffrances du temps présent sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en, selon la Bible du roi Jacques. Note du Trad. Nous. Maintenant, voici quelque chose de paradoxal. Il nous dit que nous devons souffrir avec lui. Les gens pensent que lorsque Dieu vous envoie, la vie sera rose. Eh bien, laissez-moi vous dire que si Dieu vous envoie, n'attendez rien de moins que la souffrance. Des gens m'ont dit, vous devez n'aimer pas avoir été envoyé par Dieu, parce qu'à chaque fois que vous partez, vous finissez par subir une sorte de crise sanitaire. Écoutez, la Bible est très explicite. Elle nous dit que quiconque vient à Dieu doit d'abord être éprouvé et châtié. Nous venons de lire où l'apôtre a dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. 18. J'estime que les souffrances du temps présent sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous, selon la Bible du roi Jacques. NDT. Alors n'allez pas penser pas que, si Dieu vous envoie faire quelque chose pour lui, vous pouvez vous attendre à des temps radieux et à des jours ensoleillés. Non. Ce n'est pas c'est le chemin de la croix. Ce n'est pas ainsi qu'on devient semblable à l'image du Fils premier-né. Il est venu nous sauver et, ce faisant, il a beaucoup souffert pour nous. Si Dieu vous appelle vraiment à œuvrer dans le champ, vous pouvez vous attendre à rien de moins qu'à passer par ce à quoi Dieu a fait passer son Fils premier-né. Voilà notre chemin vers l'adoption. Et nous savons que le chemin de l'adoption est le chemin pour être semblable à l'image du Fils premier-né. Écoutez ce que frère Branham dit à ce sujet dans son sermon, La Communion jeudi 18 avril 57-29. Or, si Dieu n'a pas épargné à son propre Fils ce test cruel, alors il n'épargnera ni moi de ce test cruel. Et Jésus était ici et il a été confronté au plus grand test qu'il ait jamais connu. Gethsémané se trouvait juste devant lui, là où ce test unique, final et tout suffisant devait venir. Alors que le fardeau du monde entier reposa sur ses épaules bénies. Il n'y avait personne dans tous les cieux ou sur terre qui pouvait endurer cela à part lui. 30 Et de savoir que tous les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs reposaient sur cette décision. Et c'était l'une des plus grandes victoires que Christ ait jamais remportées ou par lesquelles il a prouvé sa grande qualité de Messie. Lorsqu'il a dit à Dieu, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. C'était la plus grande victoire qu'il ait jamais remportée. Tous les démons des lieux de tourment étaient tout autour de lui pour le tenter et l'éprouver. 31 Et lorsque nous nous mettons en ordre avec Dieu, lorsque nos cœurs deviennent purs et que le Saint-Esprit occupe sa place dans notre cœur, c'est la chose la plus glorieuse que d'être testé. La Bible nous dit que les tests et les épreuves que nous endurons sont plus précieux pour nous que l'argent et l'or de ce monde. Ainsi, nous sommes, devrions être reconnaissants. Or, frère Branham fait bien sûr allusion à 1 Pierre 1.3 où il est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, 4 pour un héritage qui n'est mis sous peu ni corrompre, ni souillé, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, 5 à vous qui, par la puissance de Dieu, être gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. 6 C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, c'est afin que l'épreuve de votre foi, l'épreuve de votre révélation, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, 8 lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. 9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi, la confirmation de votre foi. Combien de fois frère Branham entrait-il dans le champ missionnaire, puis souffrait dans son corps, pendant des mois et des mois des amibes et de toutes sortes de maladies? Mais est-ce que cela l'a-t-il empêché de partir? Non. Dès que son corps était rétabli, il repartait aider les enfants de Dieu. Jean 4.6 Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Le mot grec pour fatigué sterkopiao, qui signifie se sentir fatigué, épuisé physiquement ou mentalement par le travail acharné, l'effort, l'attention, etc. Fatigué, là. La foi parfaite dit 25 août 63 S19 ainsi, la foi est basée sur le pardon. Et alors, comme nous l'avons dit ce matin, nous essayons d'amener l'Église au niveau où nous pouvons réellement voir les temps apostoliques vivre au milieu de nous. C'est de cela que nous avons tous faim. Et cela se trouve juste à la porte. Nous le voyons, mais nous voulons voir cela davantage. Nous voulons que ce soit une telle effusion, que cela nous aidera à nous déverser sur d'autres. 20 Souvenez-vous, Jésus, comme nous l'avons dit dans la leçon ce matin, il n'a jamais utilisé sa puissance pour lui-même. Il l'utilisa pour les autres. C'est pour cela qu'elle fut envoyée. Et vous pensez parfois, pourquoi un homme comme lui, qui était si plein de puissance? Devrait-il être une fois malade?
Oui, monsieur.
J'ai lu, dans un livre quelque part, que lorsqu'il ressuscita ce garçon, le fils de la veuve de Naïn, je crois que c'est Esther, dans le prince de la maison de David, il s'assit sur un rocher et se plaignit d'un mal acquis de tête. Voyez-vous? Il porta sur lui nos infirmités. Porter signifie prendre cela sur soi. Vous voyez? Il les porta. Et il avait toutes choses en. Comme nous. Il avait la maladie. Il avait des tentations. Il avait des ennuis. Il avait des frustrations comme nous en avons. Parce qu'il devait être le genre de médiateur parfait. Ainsi il devait être participant, en tant que laboureur du fruit, avant de savoir ce que c'était. La femme au puits et beaucoup d'autres choses. Voyez-vous, si nous regardons juste dans l'Écriture. Et si Jésus-Christ a porté nos infirmités, qu'en est-il de vous et de moi? Quand Dieu vous envoie pour projeter Christ aux autres, il n'envoie pas un surhomme, il envoie un agneau qui souffre. Dans la faiblesse, Dieu est rendu fort. Si Dieu m'envoyait à un endroit et que Néhémie devait jamais souffrir en y allant, alors Dieu Néhémie m'a pas envoyé parce que ce n'est pas le chemin de la croix. Il envoie des fils, qui comme le fils premier-né sont soumis à toutes les épreuves et tribulations que les hommes doivent traverser afin que nous puissions présenter Christ dans notre condition la plus faible. C'est là qu'il voit Christ projeté en vous. Dieu n'envoie pas ses fils comme le super enseignant le mieux habillé et le mieux équipé pour enseigner ceux qui n'ont rien. Il envoie ses fils comme il a envoyé son fils premier-né, dans un corps qui peut être amartelé et frappé encore et encore jusqu'à ce qu'il soit tellement dépendant de lui, alors il prend le relais à partir de là. Une fois que Dieu peut vous écarter du chemin, alors la vie invisible peut se refléter à travers votre vie. Et c'est cela que le monde entier attend de voir. Romains 1.19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation, la manifestation, d'après le roi Jacques. NDT. Des fils de Dieu. Toute la création attend de voir la vie même de Dieu se manifester dans les fils de Dieu, montrant, dans leur corps, une expression de la vie de Dieu invisible dans des fils vains car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, 21 avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir par la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 22 Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. 23 Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. 24 Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit. Peut-on l'espérer encore? Nous examinons donc ce matin comment Dieu confirme votre foi qui est invisible en l'amenant d'une promesse invisible à un accomplissement ou manifestation une fois que vous êtes entré dans la révélation invisible, la rendant ainsi une manifestation visible. Mais rappelez-vous, tout commence sous forme de pensée. Puis, une fois que vous la prononcez, ça commence à prendre vie et cela commence le processus de manifestation. Dans son sermon Regarde Dîme 28 avril 63 frère Branham dit, 120 pharaons n'avaient pas un tel potentiel. Cela lui avait été offert, mais il l'a rejeté. Et après qu'il a rejeté cela, il ne pouvait donc pas se mettre au point. 121 Aucun homme, après avoir rejeté la parole de Dieu, Néhémie peut jamais se régler sur elle, parce que vous rejetez la parole qui vous met en relation avec Christ. C'est vrai. Ainsi,
122 Mémoïs regardait par cette fenêtre. Il croyait cela. Pourquoi? Moïse regardait par la foi. C'est-à-dire comme ça que Moïse regardait. 123 Eh bien, suivez très attentivement cette observation. La foi. Eh bien, Néhémie manquait pas de saisir ceci maintenant. La foi est-elle conçue de façon à voir ce que Dieu veut et ce qu'il désire. Il n'y a pas de connaissance qui puisse y parvenir. La foi seule est-elle ainsi conçue, et elle permet à la race humaine de découvrir la volonté de Dieu. 124 Et si vous prenez la foi que vous avez qu'elle n'est mise se règle pas sur la parole, alors laissez-la de côté. Vous avez une mauvaise foi. 125 Mais quand la foi que Dieu vous donne vous est mise au point avec la parole de Dieu, vous avez la ligne de mire. Vous visez et êtes droit sur la cible. Oh là là! Que Dieu nous aide en cette heure-ci, cette heure glorieuse où nous vivons. La foi est-elle conçue de façon à voir ce que Dieu veut. Comment voyez-vous cela? Par l'appareil photo de sa parole. Sa promesse. Ceci est-elle la complète révélation de Jésus-Christ. Pourquoi crier? Parle. Dîme 14 juillet 63 M167 maintenant. Regardez donc ce qui arrive. Moïse a vu ceci dans sa vision. Mais Pharaon a dit, ceci est Esther grand. Dieu a dit, c'est Esther une abomination. Ainsi, Dieu. Moïse a choisi ce que Dieu avait dit. 168 maintenant. Remarquez, la foi voit ce que Dieu désire que vous voyez. Voyez-vous? La foi voit ce que Dieu voit. 169 Mais le raisonnement et les sens voient ce que le monde veut que vous voyez. Remarquez, le raisonnement, eh bien, c'est-à-dire seulement du bon sens humain. C'est-à-dire seulement raisonnable que, eh bien, ceci n'est-il pas tout aussi bon? Voyez-vous, c'est-à-dire exactement ce qui arrive, lorsque vous utilisez ces sens qui sont contraires à la parole. Voyez, c'est-à-dire alors ce que le monde désire que vous voyez. 170 Mais la foi n'est mais regarde pas cela. La foi regarde ce que Dieu a dit. Voyez-vous. Vous savez, vous renversez les raisonnements. Christ était si soumis à la volonté de Dieu que Sage l'a appelé le serviteur aveugle, qui était sourd à tout sauf à la voix de Dieu, et aveugle à tout sauf à ce que Dieu voulait qu'il voie. Et cela a fait de lui le parfait serviteur. Sage 42.19 Qui est-elle aveugle? Sinon mon serviteur? Et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est-elle aveugle? Comme l'ami de Dieu? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel? L'Anif dit, qui est-elle aveugle comme mon serviteur et sourd comme le messager que j'envoie? Qui est-elle aveugle comme celui qui m'est-elle consacré? Aveugle comme le serviteur du Seigneur? Vous avez vu beaucoup de choses sans y avoir prêté attention. Vos oreilles sont ouvertes, mais vous n'entendez rien. Vous avez plu au Seigneur pour l'amour de la justice, pour rendre sa loi grande et glorieuse. Dans son sermon, une délivrance totale d'hymne 12 juillet 59 frère Branham a dit, 87 Jésus était complètement, totalement un homme. Il pouvait pleurer comme un homme. Il pouvait manger, comme un homme. Il pouvait se comporter en homme. Il était complètement, totalement un homme, dans son corps. Mais dans son esprit, il était complètement, totalement Dieu. Aussi fit-il soumettre sa chair à l'esprit qui était en lui. Vous voyez, il a été tenté en toutes choses comme nous. Il était un homme, pas un ange. Il était un homme. Il avait des désirs et des tentations, juste comme nous. C'est à la Bible qui le dit. Il était un homme, pas un ange au-dessus de la tentation. Hébreux 1 dit qu'il était. Hébreux 1, 4 dit qu'il a été abaissé en dessous des anges. Il était un homme, complètement un homme. Dieu prit un homme complet pour apporter une délivrance totale, et il le remplit de son esprit. Le Saint-Esprit était en lui, sans mesure. Et il a été tenté comme nous. Et il était complètement Dieu. Il l'a démontré quand il Esther ressuscité des morts, quand il a arrêté la nature, le mugissement des mers et les vents puissants. Quand il a parlé aux arbres et tout, ils lui ont obéi. Il était Dieu, au-dedans de lui. Et il aurait pu être un homme, car il était un homme, mais il s'était totalement et complètement abandonné en tant qu'homme entre les mains de Dieu, au service de Dieu. 88 Et il est Esther notre exemple. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes aussi des chrétiens. S'il est Esther notre exemple, abandonnons-nous complètement entre les mains du Saint-Esprit afin que nous soyons des sujets du royaume de Dieu. 89 Il était totalement un homme, il était totalement Dieu. Mais il avait abandonné son naturel à son, et son corps et ses propres pensées, ses propres œuvres, ainsi que ses propres soucis, et, je n'ai mis fait que ce qui est agréable au Père. Vous y êtes totalement délivré vis-à-vis des humains. Les sacrificateurs sont venus le voir, des grands hommes, et ils ont dit, Rabbi un tel. Et ils ont essayé de le corrompre pour qu'il se joigne à leurs affiliations et dénominations. Mais il était totalement délivré parce qu'il se confiait en Dieu. 90 Le psalmiste n'a-t-il pas dit, tu le délivreras. Car il s'estère entièrement confié en moi. Voyez-vous? Jésus était tellement consacré à son Père qu'il n'y faisait rien que ce que Dieu lui montrait de faire. Il n'y disait que de ce que Dieu lui ordonnait de dire. Il n'enseignait aucune autre doctrine que la doctrine que Dieu lui donnait d'enseigner et il n'y faisait pas sa propre volonté, mais la volonté de celui qui l'avait envoyé. Jean 5.19 Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils n'y peut rien faire de lui-même, il n'y fait que ce qu'il veut faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alors, quand Jésus se concentrait uniquement sur ce qu'il voyait faire le Père, c'était toujours une parole invisible, une révélation pour lui, mais quand il entrait dans la vision, Dieu confirmait cette promesse et il est devenu cette parole accomplie. Nous voyons encore ce principe dans Jean 5.30 « Je n'ai mis puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je n'ai mis cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. J'entends, puis je le ramène dans la parole. Ensuite soit j'y entre soit je n'ai mis dépend pas de ce que j'ai d'abord vu Dieu faire. Jean 14.10 Les paroles que je vous dis, je n'ai mis les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi. C'est Esther lui qui fait les œuvres. Les paroles que je vous dis, elles étaient d'abord invisibles pour tous sauf pour moi, et puis quand j'ai dit ce que j'ai entendu, elles ont maintenant pris la forme de la réalité et se sont matérialisées devant vous. Jean 14.24 Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'était sous une forme invisible quand elle était avec mon Père, mais une fois que je l'ai entendu et parlé, maintenant cela a pris chair pour vous. Jean 14.31 Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Quand le Père me l'a donné, c'était encore invisible. Mais quand je suis entré dans ce qu'il a dit, c'est devenu une réalité pour vous. Et c'est devenu la vie pour vous. Jean 12.49 Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. À nouveau, remarquez que la parole est invisible. Mais une fois que Jésus l'a entendue, l'a reconnue et a agi en conséquence. Les paroles du Père se sont désormais revêtues de chair et Dieu confirme sa parole en l'accomplissant. Jean 7.16 Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est-elle pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » 17 Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra ginosko. Connaissance fondée sur l'expérience personnelle, si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. 18 Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Jean 4.34 Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Ce que je crois avoir lieu en cette heure, c'est que Dieu entre de plus en plus dans son Église et ses fils deviennent de plus en plus à l'image de leur frère Agené, ce qui signifie qu'ils deviennent de plus en plus à l'image de la source de vie qui est leur Père. Maintenant, si Jésus, notre frère Agené dans une vaste famille de frères, est venu à l'image exacte de son Père, ce qui est Hébreux 1.3. De même, si nous devons devenir semblables à l'image du Fils Agené dans une vaste famille de frères, alors nous devons aussi devenir à l'image de notre Père. Laissez-moi simplement lire ces deux passages pour vous. Tout d'abord, lisons Hébreux 1.3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte image exprimée, selon la Bible du roi Jacques. Note du trad. De sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. 4 Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Jésus-Christ supérieur aux anges. 5 Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es Aïe mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Maintenant, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est revenu comme l'image même du Dieu invisible. La traduction amplifiée Hébreux 1.1-5. Dans de nombreuses révélations séparées, chacune exposant une partie de la vérité, et de différentes manières, Dieu a parlé jadis à nos ancêtres, dans et par les prophètes. Mais dans les derniers jours, il nous a parlé en la personne d'un fils, qu'il a nommé héritier et propriétaire légitime de toutes choses, aussi par et à travers qui, il a créé les mondes, les étendues de l'espace et les âges du temps, c'est-à-dire il les a fabriqués, les a produits, les a construits, les a exploités et les a mis en ordre. Il est la seule expression de la gloire de Dieu, l'être de lumière, le rayonnement du divin. Et il est l'empreinte parfaite et l'image même de la nature de Dieu, soutenant, maintenant, guidant et propulsant l'univers par sa puissante parole de puissance. Quand il avait, en s'offrant, accompli notre purification des péchés et notre débarras de la culpabilité, il s'est assis à la droite de la majesté divine d'en haut. Prenant une place et un rang par lesquels il est, lui-même, devenu d'autant supérieur aux anges que le nom glorieux qu'il a hérité est différent et plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, tu es Aïe mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Or, frère Branham a dit, croire du cœur dîme 23 juin 57-45. Jésus était un témoin de Dieu. Il est devenu si plein de Dieu que Dieu lui était un. Dieu habitait en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, l'expression même. 46 L'œuvre d'un homme déclare son caractère. Christ était l'œuvre de Dieu. Et Christ a déclaré le caractère de Dieu, sa compassion pour les malades, son désir de sauver des âmes, au point qu'il a même donné sa propre vie. L'œuvre de Dieu. Le caractère de Dieu a été déclaré en Christ. Par conséquent, nous voyons qu'il était l'expression même de Dieu. Cette première lumière que Dieu produisit était le logo qui était une partie de Dieu qui se manifestait comme une expression que Dieu a appelée son Fils. Et ensuite par cette expression, ou parole exprimée, ou parole manifestée, Dieu a créé toute la création. Romains 11.36 S'ester de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. À nouveau, frère Branham dit dans, messieurs, nous voudrions voir Jésus mère 11 décembre 57-21 eh bien. Jésus ester né dans un dessein. C'était pour que Dieu se manifeste au travers de ce corps-là. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il était un corps qui avait été rendu physique, afin que les hommes et les femmes puissent voir ce qu'il pensait, ce qu'il exprimait vis-à-vis des gens selon sa reconnaissance. Et son attitude envers toute l'humanité, il l'a exprimé au travers de Christ. Christ semblait avoir une double personnalité. Parfois, il parlait et les gens se grattaient la tête. Et il n'aimait le comprenait pas. Il disait une chose une fois, on dirait, puis autre chose un autre moment. Ce qui se passait, c'est-à-dire que Jésus parlait. Et puis Christ parlait. Jésus était l'homme. Christ était Dieu qui était en lui. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi qui fait les œuvres. Voyez, Dieu n'a émis partagera sa gloire avec personne. Vous voyez, c'est exactement ce que l'apôtre Jean a dit dans 1 Jean 1.1 ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, de car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. 3 Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ainsi, la vie, qui est la vie de Dieu, dont il parle, est sortie du Père et est entrée dans son Fils afin de s'exprimer dans un être visible. Ainsi, le Dieu invisible pouvait devenir visible à travers le corps de son Fils. Et c'est ce que l'apôtre Jean a dit dans Jean 5.26, car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi la donne au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et qu'est-ce ce que la vie sans une expression de cette vie? Et si Dieu exprimait sa propre vie à travers le corps de son Fils premier-né, alors qu'en est-il des autres fils? Alors qu'en est-il de nous? Nous sommes aussi des fils nés du même esprit dans la même famille, et avons reçu le même nom que notre Père, le même nom donné au Fils premier-né est-il aussi donné aux autres fils, car toute la famille de Dieu s'appelle Jésus. Éphésiens 3.14 Cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 15 duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre. Et de plus, regardez ce que Paul a dit dans Romains 8.29 car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. J'aime la façon dont la traduction Weymouth l'interprète Romains 8.29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à ressembler à son Fils, afin qu'il puisse être l'agené dans une vaste famille de frères. Voyons comment ces choses se rapportent à ce que nous avons examiné concernant les fils de Dieu et la manière dont nous devons manifester notre condition de fils en cette heure. Remarquez que ce que nous avons lu hier soir dans le message de frère Branham concernant le parfait reflet de Dieu en Christ. L'identification mère 23 janvier 63 44. Mais quand il a vu que sa création était tombée, son caractère aimant a fait qu'il se façonne et devienne la personne de Christ. Le propre caractère d'amour de Dieu s'estère projeté dans cet homme de Christ. S'estère comme Paul le dit ici, il n'a point regardé comme une proie arrachée de se rendre égal à Dieu, ou plutôt d'être égal à Dieu. Vous voyez, son propre caractère a modelé ce genre de personne. Oh! Personne Néhémie pouvait le faire si ce n'estère Dieu. Christ identifie le même dans toutes les générations. Mère 15 avril 64-63. Il était là, manifestation de Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il manifestait ce que le Père était en lui-même. Il a dit, « Je fais toujours ce qui est agréable au Père. Moi et le Père, nous sommes un. Le Père demeure en moi. Quand vous me voyez, vous avez vu le Père. » En d'autres termes, il exprimait Dieu. L'Esprit était tellement en lui que le Père est lui. Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être la même personne. Les investissements SEM 26 janvier 63 269. Jésus-Christ était l'image exprimée de Dieu. Il était ce que Dieu a projeté au travers de sa puissance, un corps qui était appelé le Fils, parce qu'il était un homme. Et il venait de Dieu. Et il était tellement abandonné à Dieu qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher que lui et Dieu soient une même personne. Toutefois, il l'était. Parce que Dieu était la parole. Et lui était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et c'était là que Dieu pouvait prendre sa parole. Sans rien. Sans interruption. Il faisait constamment ce que le Père voulait. Et là, la parole pouvait œuvrer au travers de lui au point que lui et le Père étaient un. Voilà. 270. Et alors, il a pris cette vie parfaite. Il a pris tous nos péchés et a placé cela sur cette vie parfaite. Et il est mort afin que nous les renégats, nous soyons. Nous puissions mourir à nous-mêmes et que nous naissions d'en haut. Et que sa parole puisse accomplir au travers de nous les œuvres de Dieu. Shalom Dim 12 janvier 64 7 Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique est celui qui l'a fait connaître. Voyez-vous, en d'autres termes, Dieu était identifié. Là la personne de Dieu était identifiée dans le corps, le Seigneur Jésus-Christ, d'où il était alors l'image exprimée de Dieu. Où Dieu s'est exprimé au travers d'une image, l'homme. Dieu s'est exprimé vis-à-vis de nous et cet homme était Dieu. Non pas une troisième personne ou une deuxième personne, il était la personne Dieu. Il était Dieu lui-même s'identifiant afin que nous puissions le sentir. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse je 3 mai 51 15. Quand Jésus de Nazareth. Je crois que le Père était en lui. Que toutes les grandes choses appartenant au Père ont été confiées à son Fils. Toutes les grandes bénédictions et les grands dons. Car il était juste l'image exprimée du Père. Et en lui habitait toute la richesse de Dieu. Cela habitait en lui, ici. Et il a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Mon Père habite en moi. Juste comme Jéhovah. Juste ce que Jéhovah était, Jésus l'était. Il était son image exprimée. Il était Dieu dans une forme ici. Et toutes les puissances de Dieu ont pris forme. Elles ont été placées dans un corps humain. Il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Et Dieu non seulement a été identifié dans le corps de son fils premier-né, mais en cette heure il a été identifié dans un autre fils William Branham. Et le Dieu invisible était tellement exprimé à travers son corps que beaucoup ont pensé qu'il était Dieu manifesté dans la chair. Et il l'était. Il était tellement un avec Dieu, qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être la même personne que Dieu. Et c'est Esther ce que Dieu veut aussi faire dans votre corps et le mien. C'est Esther pourquoi nous, Néhémie, pouvons pas recevoir le changement de notre corps jusqu'à ce que nous ayons premièrement la pensée même de notre Père en nous. Écoutez le Psaume 15 décembre 56-39 remarqué. Maintenant, quand cet enfant atteignait un certain âge, s'il avait été un bon enfant, s'il avait été zélé pour les travaux du Père, s'il avait été stable, s'il excellait toujours dans les œuvres du Seigneur, s'il n'était pas ballotté à tout vent et aux soucis, non pas un presbytérien un jour et le jour suivant un méthodiste, et le jour suivant un nazaréen, et le jour suivant pèlerin de la sainteté, ballotté comme une feuille sur une mer agitée. Peu importe où c'était, si son esprit était stable et fixé sur Christ, ses affections, et qu'il travaillait d'un seul cœur, étant zélé pour sauver les âmes et que Néhémie ne se mêlait pas aux disputes de l'Église. Et puis dans l'Ancien Testament, il arrive un jour où ce père faisait sortir son fils devant le public comme un témoignage. Il le revêtait d'une robe et le plaçait sur une grande place où toute la ville pouvait le voir. Et il y avait la loi de l'adoption. Ce père avait des obligations vis-à-vis de son propre fils, qui était né dans sa propre famille et qui, maintenant, avait de l'âge. Et c'était un enfant digne de prendre sa place, et il adoptait ou plaçait son propre fils à son poste. Tout lecteur de la Bible sait cela, le placement d'un fils. Alors après cette cérémonie, ce fils avait le droit. Son nom valait tout autant que celui de son père, sur le chèque. C'est cela que devrait être l'Église aujourd'hui. Les choses que je fais, vous les ferez aussi, vous en ferez plus que ceci, car je m'en veux au Père. C'est cela que l'Église devrait être aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. Et pourquoi? À cause de jalousie et d'indifférence mesquine, comme à l'époque de Joseph et à l'époque de Paul, à cause des petites indifférences, ils n'aimaient voulaient pas se rallier à ce que Paul faisait. Honte à eux. Écoutez le là 11 juin 56-27 bon. Si cet enfant était obéissant, alors il arriva un jour où cet enfant devenait mûr. C'est Esther en ce jour-là que l'Église pentecôtiste devrait se retrouver aujourd'hui. Vous les presbytériens, vous devriez être ainsi il y a longtemps, les baptistes et les méthodistes. Mais qu'y a-t-il? Alors, un certain jour arrivait, où ce père appelait tout le monde de la contrée, ils entraient dans la ville, où allait à une grande place. Alors il amenait son fils et le plaçait à un lieu élevé, il le revêtait d'une belle robe. Et on tenait une cérémonie, ce père adoptait ce même fils qui était né, il l'adoptait dans sa famille. Ou, en d'autres termes, il le plaçait dans sa position, ce qu'il était dans la famille, et alors ce dernier devenait héritier de tout ce que le père avait. En d'autres termes, son nom sur un carnet de chèque était tout aussi valable que celui de son papa. Et c'est cela que l'Église devrait être aujourd'hui, elle devrait être à un niveau où, et je le dis à moi-même et à vous, oh, que c'est pitoyable, lorsque je vais ça et là, de voir les afflictions, la maladie des gens et tout. Nous devrions avoir atteint un niveau de foi en Dieu, être tellement séparés que ce que nous demanderons au Père au nom de son Fils, il nous l'accordera. C'est vrai. 28 Il l'amenait à un endroit, et là il l'adoptait dans sa famille, ou à un moment spécial où il l'amenait à l'écart, il devrait en être ainsi de l'Église ce soir. Un ange vient vers vous. Il vous met à l'écart. Il vous montre votre position, là où vous êtes. Pas un groupe de gens qui vous impose les mains, ça. C'est extraterrestre. Je parle de Dieu. Dieu vous met à l'écart à votre place, dans votre position. C'est Dieu qui fait ça. C'est votre tuteur qui fait ça. Il est présent quand cela se passe. Remarquez donc, Dieu faisait ici exactement ce qu'il avait demandé à l'homme de faire. Son fils avait été obéissant. Il s'était occupé du Père. Il n'avait pas erré ça et là, à des endroits, disant, « Voyez-vous qui je suis ? Ma compagne Esther la plus grande du pays. » Oui, oui, il avait été obéissant. Il avait été obéissant au Père. Il n'avait pas vagabondé autour des choses du monde, s'en mêlant. Il avait été obéissant. Et Dieu a pris les témoins de la terre, Pierre, Jacques et Jean. Il a fait descendre Élie et Moïse du ciel. Il les a placés là et il a adopté son propre fils. Il a été glorifié en présence de ses témoins. Et le Dieu Esther descendu et l'a couvert de l'ombre. Et la Bible dit, ses vêtements étaient étincelants comme le soleil. Vous voyez la robe, sa glorification. Il l'a revêtu d'une robe devant les témoins célestes, devant les témoins terrestres. La puissance de Dieu pour la transformation. Saint-Mons, septembre 6554. Néhémie, soyez pas à choper par ce mot prédestination. Je sais que vous l'êtes. Mais, écoutez, ce n'est pas mon mot à moi. C'est Esther, l'un des mots utilisés par Dieu. Si vous voulez le lire, lisez Éphésiens 1.5, qui dit, « Il nous a prédestinés à être des fils adoptés par Jésus-Christ. » Vous voyez, 155, laissez-moi tirer cela au clair juste une minute, pour tirer cela au clair dans votre esprit. Écoutez. C'est Esther juste ainsi que vous étiez, au commencement, dans votre Père, un germe semence. Le savez-vous? Chacun de vous, vous étiez aussi dans votre arrière-grand-père. Le savez-vous? L'assemblée dit, Amen. NDE, lisez l'épître aux Hébreux, là où nous voyons que Lévi a payé la DGME alors qu'il était encore dans les reins d'Abraham, 4 générations avant lui. Quand Abraham a payé la DGME à Melchizedek, cela fut imputé à son arrière-petit-fils après lui, qui était alors dans les reins d'Abraham. 156 Vous y êtes? Croire du cœur d'hymne 23 juin 57-45. Jésus était un témoin de Dieu. Il est devenu si plein de Dieu que Dieu lui était un. Dieu habitait en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, l'expression même. 46 L'œuvre d'un homme déclare son caractère. Christ était l'œuvre de Dieu. Et Christ a déclaré le caractère de Dieu, sa compassion pour les malades, son désir de sauver des âmes, au point qu'il a même donné sa propre vie. L'œuvre de Dieu. Le caractère de Dieu a été déclaré en Christ. Par conséquent, nous voyons qu'il était l'expression même de Dieu. Cette première lumière que Dieu a engendrée était le logo qui était une partie de Dieu se manifestant dans une expression que Dieu a appelée son Fils. Et ensuite par cette expression, ou parole exprimée, ou parole manifestée, Dieu a créé toute la création. Romains 11.36 Esther de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Messieurs, nous voudrions voir Jésus mère 11 décembre 57-21. Eh bien, Jésus est né dans un dessein. C'était pour que Dieu se manifeste au travers de ce corps-là. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il était un corps qui avait été rendu physique, afin que les hommes et les femmes puissent voir ce qu'ils pensaient, ce qu'il exprimait vis-à-vis des gens selon sa reconnaissance. Et son attitude envers toute l'humanité, il l'a exprimé au travers de Christ. Christ semblait avoir une double personnalité. Parfois, il parlait et les gens se grattaient la tête. Et ils n'aimaient le comprenaient pas. Il disait une chose une fois, on dirait, puis autre chose un autre moment. Ce qui se passait, c'est-à-dire que Jésus parlait. Et puis Christ parlait. Jésus était l'homme. Christ était Dieu qui était en lui. Ce n'est-à-dire pas moi qui fais les œuvres. C'est-à-dire mon Père qui demeure en moi qui fait les œuvres. Voyez, Dieu n'aimé partagera sa gloire avec personne. Ce n'est-à-dire pas moi qui fais les œuvres, mais mon Père qui est-à-dire invisible. C'est-à-dire lui qui fait les œuvres. Puis quand je fais ce que je le vois faire, cela amène l'interprétation de la révélation en manifestation, confirmant ainsi la promesse qu'elle est-à-dire réelle. Le temps de la moisson samedi 12 décembre 64-87 Jésus a dit, afin qu'il soit un. Père, comme toi et moi nous sommes un. Non pas qu'un homme soit au-dessus de quelque chose, cela n'y marchera jamais, une dénomination veut être au-dessus de l'autre, et un homme veut être au-dessus de l'autre. Mais, que vous soyez un avec Dieu, comme Christ et Dieu étaient un, c'était ça la prière. Ce. Il était la parole. Et Jésus a prié que nous devenions la parole. Que nous le reflétions. C'est-à-dire sa prière, qui doit être exaucée. 88 Voyez-vous comment Satan a introduit cela dans la pensée charnelle? Mais ce n'était pas ça la prière de Jésus. Pas du tout. Que nous formions tout une seule assemblée et que nous ayons tout un certain credo et autres. Chaque fois qu'ils font cela, ils s'éloignent davantage de Dieu. 89 Il veut que nous soyons un avec Dieu, et Dieu est-à-dire la parole. Chaque individu, dans son cœur, doit être un comme ça avec Dieu. Dans Jean 17.11 Je n'ai mis suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Et comment est-ce possible d'être un « comme » ce qui signifie, de la même manière que Jésus et son Père étaient un. Jésus a dit, Jean 17.14 « Je leur ai donné tes paroles, et le monde les a haïs, parce qu'ils n'ai sont pas du monde, comme moi je n'ai mis suis pas du monde. » Jésus nous dit que nous devenons un avec Dieu par la même parole, par laquelle il est devenu un avec Dieu. Jean 17.20 Ce n'est-ce pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. 21 Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es aille en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire, la doxa, les opinions, valeur et jugement invisible que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous sommes un. Et ainsi, lorsque nous devenons la doxa même de Dieu personnifié, nous sommes passés de la foi à la foi confirmée en devenant la manifestation, dans notre zoé, notre vie, l'expression même de la vie de Dieu. Par conséquent, il est très évident que nous sommes un en recevant la même parole qui nous introduit dans la même gloire ou dans la même pensée que le Père. Je leur ai donné la gloire tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. De Thessaloniciens 1.10 Lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints en doxa zoé et admiré dans tous ceux qui y auront cru, car notre témoignage auprès d'eux vous a été cru. De Thessaloniciens 1.12 Pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Or, gardez cette histoire à l'esprit, alors que nous revenons et relisons ce que l'apôtre Jean nous disait dans 1 Jean 1.1 ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Rappelez-vous, il l'a d'abord entendu de Dieu. Or la foi vient de ce qu'on entend, ce que nous avons vu de nos yeux. Et une fois qu'il l'a dit, alors la pensée, la vie, se matérialise et Jean dit ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Concernant la parole de vie, de car la vie a été manifestée. Or, la vie Esther invisible jusqu'à ce qu'elle se manifeste et ensuite, quand elle se manifeste nous voyons par ses caractéristiques la forme de vie qu'est Esther. Et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, vous l'exprimons par la parole parlée, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, octobre 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.